Le huitième soleil, par Richard Keller, chapitre 43. Les allégations de Maria Mirkovic ne restèrent pas lettre morte. Sagol et Gilles voulurent éclaircir et approfondir certaines de ses déclarations. Patrick Chenard figurait sur la liste des personnes qu'il convenait de cerner d'un peu plus près. Cet ancien petit ami d'Isabelle Malardeau purgeait sa peine dans une prison du département de l'Isère. Depuis quelques mois, il profitait de la chance, si l'on peut s'exprimer ainsi, d'avoir été transféré à proximité de sa famille. L'administration pénitentiaire se montrait parfois un peu plus humaine. Dans le cas présent, il s'agissait d'un heureux hasard. Le truand, condamné pour trafic de drogue entre l'Italie et la France, avait écopé de 10 ans. Les deux enquêteurs voulaient d'abord l'entendre, puis rencontrer ses amis et son entourage. Il pouvait avoir commandité le meurtre et avoir manipulé l'assassin. Une visite aux prisonniers s'imposa aux deux hommes. Patrick Chenard possédait peut-être une des clés de l'énigme de la falaise. Une demande auprès du juge d'instruction s'avéra incontournable. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le palais de justice, des images de ces années passées à résoudre des enquêtes savoyardes leur revinrent comme un flashback. En l'espace d'une année, de nombreuses mutations et nominations avaient transformé le paysage judiciaire. Seuls subsistaient quelques greffiers et l'inamovible Antoine Catano, qu'une amitié indéfectible liait aux deux gendarmes. Antoine travaillait dans son bureau lorsqu'il entendit frapper à sa porte. Il répondit machinalement « Entrez », et sa surprise fut totale. Son visage s'illumina et sa joie fit plaisir à voir. Il se leva et se précipita à la rencontre de ses amis. Sous le gilet marron, on pouvait deviner une bedaine naissante. Le juge savourait la vie et cela se décelait. Les trois comparses discutèrent un bon moment. Catano travaillait sur ses dossiers et n'auditionnait personne ce matin-là. Ils évoquèrent le bon vieux temps et ne virent pas le temps passer. À 11 heures, ils se posèrent la question qui taraudait l'estomac d'Antoine. Où déjeuner ensemble? Ils se donnèrent rendez-vous à 12h30 dans un estaminet de la vieille ville. En attendant, Sagol et Gilles frappèrent à la porte du juge Ludovic Vincenol. Ce dernier ne ressemblait en rien à son collègue Catano. Il s'y opposait même, à la fois physiquement et moralement. Il mesurait près de 2 mètres et possédait un corps d'athlète. L'homme devait être très sportif. Moins volubile que son camarade Antoine, il mit rapidement à l'aise Sagol et Gilles, et son contact se révéla agréable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ils bavardèrent un peu et évoquèrent leurs vies respectives. Ludovic confirma sa passion pour les activités physiques. Il avait pratiqué l'aviron à haut niveau, à 400 barreurs, et finit cinquième d'un championnat du monde. Le courant passa très bien, et après un rappel des deux affaires qui occupaient les enquêteurs, Ludovic Vincenol délivra l'autorisation nécessaire à la visite du condamné Patrick Chenard. Antoine Catano emmena les deux gendarmes dans un petit restaurant où ils purent discuter en toute tranquillité en dégustant des fruits de mer. Il s'émerveilla comme un enfant en écoutant le récit de ses amis sur le carnaval de Venise et l'épisode de la Colombine qui s'était transformée en geisha du Campanile. Le juge adorait l'histoire vénitienne et toutes les légendes qui s'y rapportaient. Il aurait aimé s'occuper du dossier des deux Isabelles, mais le sort en avait décidé autrement. Il connaissait la lagune mieux que sa poche et devint intarissable sur les affaires criminelles liées à la cité des Doges. Sagol et Gilles découvrirent une nouvelle facette de leur ami, un coin de son jardin secret. Ils prirent congé rapidement. Les trois hommes avaient passé 2 heures agréables, mais l'horloge du carillon de la chapelle sonna la demie et les rappela à leurs devoirs. Sagol et Gilles se présentèrent à la prison à 15h30. L'accueil peu enthousiaste confirma le peu d'atomes crochus entre l'administration pénitentiaire et les services de police ou de gendarmerie. Après quelques palabres et un entretien avec le directeur de l'établissement, ils purent rencontrer Patrick Chenard. Le milieu carcéral, qui exacerbe les personnalités, accentua l'impression d'animalité que les enquêteurs éprouvèrent à l'égard du détenu. Ils décelèrent un profil de prédateur associé à un comportement provocateur. Il toisa longuement les gendarmes avant de leur adresser la parole. Sagol, en vieux renard, laissa faire et garda le silence. Son attitude provoqua l'effet escompté. Chenard demanda ce qu'il lui voulait et la conversation put s'engager. L'homme resta debout et les enquêteurs aussi. Il ne sortira sûrement pas vainqueur de ce petit jeu, pensa Gilles. Patrick Chenard, l'œil vif et le cheveu court, surveillait son monde. Il observait et refusait de se dévoiler. Sagol le questionna sur ses tatouages. Le trafiquant lui rétorqua qu'il n'était pas venu là pour en parler. Néanmoins, il confia qu'il assimilait chacun de ces marquages indélébiles à une médaille gagnée à la force du poignet. Gilles orienta l'entretien sur Isabelle Malardeau. « Enfin, nous y voilà. Je n'ai rien à dire sur cette morue, vociféra-t-il. Elle a fait son choix, bon vent. » Sagol se demanda s'il ignorait réellement la disparition de son ancienne petite amie ou s'il se jouait d'eux. Le directeur de la prison leur avait signalé que le détenu avait été placé au mitard. Il pouvait donc ne pas avoir été informé de la fin tragique de la victime. Fidèle à son personnage, le truand précisa que cette traînée se révélait exceptionnelle au plumard et qu'elle disposait d'un tempérament de feu sans aucun tabou. Les deux hommes réfléchissaient en même temps que Chenard s'exprimait. Ils notèrent la similitude des profils sexuels des deux Isabelle. Il leur faudrait explorer aussi cette singularité. Ils laissèrent le détenu se répandre en confidence. Il devint intarissable sur sa libido et celle de sa compagne. Gilles éprouvait de la difficulté à dissimuler sa gêne devant des propos aussi crus et vulgaires. Le gendarme ne concevait pas que l'on puisse étaler au grand jour ce qui se déroulait dans l'intimité entre deux êtres. Les questions s'orientèrent sur les fréquentations du couple à l'époque de leurs exploits libidineux. Mais Chenard ne lâcha rien. Il prétendit ne connaître personne de l'entourage d'Isabelle. Pour le moment, il purgeait sa peine et souhaitait passer à autre chose. Sagol et Gilles n'insistèrent pas. Ils consulteraient le dossier de l'affaire et trouveraient bien quelques noms à se mettre sous la dent. Gilles révéla à Patrick Chenard la fin d'Isabelle Malardeau. L'homme ne tenait visiblement plus à son ancienne compagne. Il n'exprima aucune émotion et déclara que ce n'était pas son problème. Malgré un déficit d'information, Sagol fit part à son ami Gilles de sa satisfaction de leur visite au condamné. Ils avaient notamment appris que l'appétit sexuel de l'animatrice se situait nettement au-dessus de la moyenne et qu'elle s'autorisait toutes les audaces. Cette particularité associait la geisha du campanile à la défunte de la falaise. Il fallait fouiller dans les alcôves pour trouver le lien entre les deux femmes. Les gendarmes étaient persuadés que Chenard ne connaissait pas Isabelle Rivet. En revanche, Rodrigue Bonifay avait-il rencontré Isabelle Malardeau? Ici résidait le nœud qui pouvait relier les deux cas. Ils obtinrent des renforts pour enquêter sur les habitudes de l'animatrice radio à l'époque de ses fréquentations louches. Il convenait de savoir si un lien existait entre cette période et la découverte macabre au pied de l'escarpement rocheux. Cette piste s'avéra maigre. Malgré les dires de Maria Markovic et de Patrick Chenard, la jeune femme ne multipliait pas les partenaires. Elle réservait ses exploits à son compagnon du moment. Néanmoins, un détail intrigua les enquêteurs. Ils ne purent identifier le dernier amant, qui pourrait bien être le meurtrier. Tous les mâles ayant profité des largesses libertines d'Isabelle figuraient sur une liste dont l'ordonnancement semblait parfait, excepté pour l'ultime mois de sa vie. Le printemps montrait le bout de son nez et un soleil généreux inondait de ses rayons l'avant-pays. Les enquêteurs s'affairaient au domicile de feu Isabelle Malardeau et la perquisition battait son plein. Sagol et Gilles voulaient procéder à un certain nombre de vérifications. Quelques détails les intriguaient et les spécialistes s'attardèrent en particulier sur le piano. Sagol piqua une colère lorsqu'il apprit que les chiens avaient longuement tourné autour de l'instrument lors de la visite de ses collègues. Il devint blême en découvrant qu'aucun prélèvement n'avait été effectué à ce moment-là. Il craignait que d'autres empreintes se soient disséminées, venant ainsi perturber les investigations. Malgré ses craintes, les marques laissées sur le clavier et le couvercle s'avérèrent de bonne qualité. et peu de traces différentes furent collectées. Gilles se renseigna sur les propriétaires des habitations dans un rayon de 5 kilomètres. Il ne décela aucun élément de nature à orienter les recherches. Le hameau sortait d'une longue hibernation et de nombreuses résidences secondaires n'avaient pas encore reçu la visite de leurs résidents des beaux jours. Les rares personnes qui croisèrent les gendarmes affirmèrent n'avoir rien vu, rien entendu, à l'exception de Maria Markovic. Le lieutenant voulut vérifier toutes les demeures situées entre le domicile de la défunte et la falaise. Il pensait que le meurtrier avait pu résider dans le secteur, car il s'était apparemment déplacé à pied. En effet, la commère du quartier n'avait remarqué aucun véhicule. D'autre part, elle certifia qu'elle reconnaissait toujours la voiture d'Isabelle Malardeau, qui émettait un bruit caractéristique lié au pot d'échappement en mauvais état. Au jeu du chat et de la souris, les gendarmes ignoraient que depuis Venise, Rodrigue possédait une petite longueur d'avance. Les deux comparses rencontrèrent le docteur Ludovic Massepiol, qui répéta ce qu'il avait communiqué à son ami Riffard. Sagol lui demanda des précisions sur les sous-vêtements de la défunte. Le légiste déclara qu'il s'agissait d'un string blanc, comme en portent les jeunes femmes d'aujourd'hui. Gilles insista pour savoir si l'examen des parties génitales n'avait pas révélé des particularités. Accessoires, scarifications, piercing. Le médecin certifia que la victime menait une activité sexuelle apparemment normale. Le lieutenant voulait vérifier si les tendances dépravées de la geisha du campanile se retrouvaient chez l'animatrice de radio. Il en fut malheureusement pour ses frais. Désormais, il attendait avec impatience les résultats des prélèvements sur les touches du piano et l'analyse de la paire de chaussettes d'homme trouvée dans la maison de la victime.